Seigneur, bénisse. Dans la prière. C'est vrai, dans ta maison, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour. Il y a toutes ces choses qui reflètent le caractère de notre Dieu. Toute ta gloire la remplit. Et tu nous y invites. Aussi, lorsque nous sommes chargés, fatigués, nous voulons entrer dans ta maison, déchargés de toutes ces choses, à tes pieds, Père, et nous attendre tout simplement à toi. Que tu poses ta main bénissante et fortifiante sur chacun d'entre nous. Que ceux qui sont fatigués retrouvent du courage. Ceux qui sont malades, qui trouvent la santé. Que ceux qui ont des requêtes particulières dans leur cœur, oh Dieu, puisses-tu y répondre. Car avant même qu'ils n'ouvrent leur bouche, tu sais déjà de quoi ils ont besoin. Veuille nous assister ce soir. Nous sommes venus chercher du réconfort. Nous sommes venus peut-être chercher quelques réponses ou nous sommes tout simplement venus chercher une parole qui nous encourage sur le chemin. Pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos fautes. Nous te remercions de ce que nous avons pu chanter. Nous te demandons également avec tous nos bien-aimés, tous ceux qui ont difficile en ce moment-ci, que on ne te demande pas de leur enlever les difficultés, mais on te demande de leur donner la victoire, afin que les témoignages de ton saint nom puissent encore affluer autour du milieu de nous. Nous nous attendons à toi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Nous allons lire ce soir dans Exode 17. Toute l'assemblée des enfants d'Israël parti du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Massa et Meriba veulent dire, signifie tentation et querelle. Dans Matthieu 4, il nous est également parlé de tentation. On peut y rejoindre la conversation entre le Seigneur et le diable dans Matthieu 4. Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte le plaça sur le haut du temple et lui dit, Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et il te portera sur les mains. Amen. On parlera ce soir, on va juste intituler, Ils avaient tenté l'Éternel, ce que c'est que tenter Dieu. Il y a trois manières que j'ai pu voir, peut-être qu'il y en a plus, je n'en sais rien, mais je vous dirai ce que moi j'ai pu voir. Dans Marc chapitre 16, verset 15, puis il leur dit, Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est la parole de Dieu. C'est une commission donnée par Jésus-Christ lui-même. Une manière de tenter Dieu ici, par exemple, on peut prendre, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, parce que vous avez cru en la parole, vous avez cru en l'évangile, vous voyez bien que c'est mortel le breuvage, vous le prenez parce que vous avez cru. Étant donné que Dieu a dit, eh bien, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ben, ça, c'est une manière de tenter Dieu. C'est un peu ce que le diable a voulu faire faire au Seigneur. Donc, c'est tenter Dieu juste parce que vous venez de croire, vous dites, ben, je vais le faire. Vous savez très bien que c'est mortel. On vous dit que c'est mortel, vous prenez. Ici, quand le Seigneur en parle, c'est quand vous n'en savez rien. Mais quand vous savez que c'est mortel, ne prenez pas. Ils saisiront des serpents ou des trucs comme ça. Non, ne vous amusez pas à aller en prendre. Hein. Ouais. Donc, toutes ces choses, c'est vrai, ils saisiront des serpents. Si vous en voyez un, le Seigneur a dit, si je peux en saisir un, va. Eh bien, ça vous arrivera. Ça, c'est Dieu déteste qu'on le tente. Ça, c'est une façon de le tenter. C'est pas fini. Dans Exode 17, nous voyons aussi qu'ils l'ont tenté. Dieu n'est pas tenté quand on parle de tentation. Quand on dit que moi j'ai été tenté, ça veut dire que j'étais poussé à faire quelque chose de ne pas correct. Ça va? Donc, j'étais poussé à la faute. Hein? Séduit. Dieu, on ne le séduit pas. Pas moyen de séduire Dieu. Moi, on peut me séduire en me proposant quelque chose qui est tout à fait contraire à la parole. Et on peut me pousser à la faute. Moi, je peux être poussé à la faute. Mais Dieu, lui ne commet pas de faute et il n'en commettra jamais. Et lorsque Dieu est mis à l'épreuve, on peut aussi parler de tentation, pour vous aussi, mais Dieu ne tente pas. Dieu vous éprouve. Lorsqu'il est mis à l'épreuve, c'est un défi qui lui est lancé. Qui lui est lancé, c'est juste pour voir si sa parole est réellement vraie, si c'est une réalité, s'il est capable d'accomplir ce que dit la parole, c'est une manière de tenter Dieu, de tenir ses promesses. Il a promis aux enfants d'Israël qu'il les conduirait de l'Égypte jusque dans un pays où coule le lait et le miel. C'est une promesse qu'il avait faite déjà depuis le temps d'Abraham. Et aujourd'hui, vous avez des promesses qui sont faites. Voici, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Il ne s'agit pas d'aller chercher des démons dans la rue et commencer à vous amuser à les chasser les uns après les autres. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de voir lorsque quelqu'un est tourmenté par un démon et qu'il a vraiment besoin d'être délivré, eh bien, vous priez Dieu pour que, et vous revendiquez cette mission, comment dirais-je, cette tâche que Dieu vous a donnée, vous la revendiquez avec foi et vous chassez le démon. Et quand vous le faites, vous devez savoir que Dieu, vous devez être certain que Dieu est capable de le faire. Dans Marc 9, il y a un démon qui tourmentait un jeune homme. Les disciples, je ne sais pas de quoi, pourquoi ils discutaient de ça, mais bon. Verset 14, lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, de quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Ça a dû étonner les disciples. Parce que quand vous lisez dans Luc 10, ils sont revenus tout joyeux, disant, Seigneur, les démons nous étaient soumis. Et même que Jésus a dit, c'est vrai, j'ai vu Satan précipiter du ciel, n'est-ce pas, comme un éclair. Et ici, ils étaient étonnés, ils se retrouvent, ils étaient sûrs que ça marcherait à tous les coups. Et ils arrivent, ils trouvent un cas, ils essayent et ça ne marche pas. Alors, je ne sais pas ce que les scribes sont venus leur dire. Peut-être que les scribes leur ont dit que, voilà, vous voyez, il vous a menti, celui-là, des choses comme ça. Je n'en sais rien. Alors, quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Et pourtant, ils ont essayé. Jésus va pourtant leur dire, race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit, le démon donc, l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Alors, ici, il dit une phrase malheureuse, mais si tu peux quelque chose. Parce que les serviteurs de Dieu ont échoué, donc Dieu est incapable. Non. Si le serviteur de Dieu n'a pas pu, ça n'enlève pas la capacité de Dieu. Dieu reste capable, n'est-ce pas, d'accomplir sa parole. Il dit, si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Vous ne pouvez même pas avoir le doute. Vous ne pouvez même pas dire à Dieu, oh Seigneur, si tu peux. Non, vous devez savoir, comme le centenier romain, vous devez savoir que il peut, non seulement il le dit, mais il est plus que capable de l'accomplir. Et ça, le Seigneur a dit, si tu peux, vous voyez, ce n'est vraiment pas la manière de l'approcher lorsque vous voulez prier pour quelqu'un. Nous avons des bien-aimés qui ont besoin de nos prières. Nous n'avons pas à nous approcher du Seigneur en disant, Seigneur, si tu peux quelque chose pour nos frères, pour nos frères et nos sœurs. Non, non, non. Nous savons que Dieu peut le faire. Maintenant, s'il ne le fait pas, lui, c'est pourquoi. Si c'est notre foi qui est mise en doute, enfin qui n'est pas suffisante, Nous avons à prier, comme les disciples, à un moment donné, ont prié, augmente-nous la foi. Et dans Exode 17, ils étaient en plein désert. Dieu, en fait, les promesses que le Seigneur nous a faites, souvent sont des promesses, des choses qui relèvent de l'impossible. En tant qu'humain, nous, nous croyons, nous disons que c'est impossible. On voit un aveugle né, le Seigneur dit, c'est pour que vous voyez la gloire de Dieu, et le Seigneur guérit l'aveugle né. Il lui redonne la vue. Et l'aveugle né lui-même va dire, jamais on n'a vu ça. Qu'un aveugle de naissance qu'il ait recouvré la vue. Alors, il se trouve, le peuple ici, ça c'est une autre façon de tenter Dieu. C'est-à-dire aller dans la rue, n'est-ce pas, commencer à chercher tous les démons possibles pour les chasser, laisser seulement. Il y en a un qui poursuivait Paul partout où Paul allait, n'est-ce pas, jusqu'au jour où Dieu lui a montré, c'est le moment. Ça va? Quand Dieu lui a montré que c'était le moment, c'était fini et Paul l'a chassé. Jusque-là, laissez-le faire son travail. Il a choisi l'autre a choisi de l'accueillir, de le garder au dedans d'elle, cette femme-là. Eh ben, qu'elle le garde, son démon. Oui? Mais jusqu'au jour où, si Dieu veut chasser le démon, Dieu vous dira, chassez-le. Ça va? Alors, ici, le peuple, ils étaient en plein désert, tenus par la soif, et aucun point d'eau à l'horizon, mais un rocher. Seulement un rocher. Et au rocher qui était là devant eux, Dieu dit à Moïse, je me tiendrai devant le rocher, n'est-ce pas? Viens et frappe-le, et le rocher donnera des eaux, donnera ses eaux. Mais pendant qu'ils étaient là à crier, ils avaient soif, Dieu a appelé ça une tentation. Il dit que le peuple m'a tenté. Parce que, bon, il n'y a aucun point d'eau à l'horizon. Aucune solution devant vous, autour de vous. Et vous commencez, n'est-ce pas, à ce moment-là, à vous plaindre. On commence à ce moment-là à se plaindre et à dire, c'était du pipeau, cette histoire, que de vous devoir quitter l'Égypte. Mais c'est pour que nous puissions mourir en plein chemin, en plein désert. On aurait dû rester en Égypte. Dieu appelle ça la tentation. Le peuple était là, pressé par la soif, murmurant contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? Moïse va crier à l'Éternel, Seigneur, c'est toi qui m'as demandé d'aller parler à ce peuple. C'est toi qui m'as dit de les prendre hors d'Égypte. J'étais tranquille là avec les brebis de mon beau-père, n'est-ce pas? En gardant le troupeau de mon beau-père, tu es venu dans un buisson ardent. C'est le moment de rappeler à Dieu que c'est lui qui vous a appelé. Et quand Dieu appelle quelqu'un, avant de l'appeler, Dieu équipe la personne. Lui qui connaît la fin dès le commencement, il vous équipe par rapport à toutes les difficultés que vous rencontrerez. Si c'est Dieu qui vous a appelé, à chaque fois que vous rencontrerez un obstacle, sachez que vous êtes équipé pour surpasser l'obstacle, pour passer au travers. Et à chaque fois que vous passez un événement douloureux, et que Dieu vous a appelé, sachez que vous êtes équipé pour supporter cet événement-là. Vous devez être sûr de cela, que Dieu, de toute façon, nous avons cette promesse que Christ nous a laissée, disant, il ne nous laissera jamais orphelins. Ne vous posez pas la question, mais comment est-ce que frère François va tenir? S'il est appelé de Dieu, il tiendra sûrement. Si vous êtes, moi je ne m'inquiète pas pour vous non plus, sauf que vous passez des moments extrêmement difficiles, moi je suis impuissant devant cela, mais je sais que si vous êtes un fils ou une fille de Dieu, je sais que vous traverserez le moment, l'événement. Et c'est ça qui nous rassure, et c'est ça qui fait que, qu'il fasse beau, ou qu'il neige, ou qu'il pleuve, nous continuons à marcher en chantant, en le louant. Judas est toujours devant dans la marche. Nous y allons avec nos louanges. Et rappelez-le lui, que c'est lui qui vous a appelé. Alors, maintenant, l'Éternel dit à Moïse, verset 5, Exode 17, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends-les. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. » Moïse s'exécute. Si Moïse avait pensé à lui, il aurait pu dire, « Tiens, et si ça ne marche pas, donc devant les anciens, je vais devenir un faux prophète ou un imposteur que Dieu ne m'a pas appelé. » Mais il était sûr de son Dieu. Il faut être certain de votre Dieu. Il faut être certain de celui qui vous a appelé. Il faut être certain que Dieu est plus grand que votre problème. Votre problème peut être énorme, mais Dieu est encore plus énorme. Nous devons avoir cette certitude-là. Dieu lui dit, je me tiendrai devant toi sur le rocher, un rocher, l'endroit le plus sec du désert, comme dit le frère. Dieu lui dit, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Seigneur, 2 millions de personnes, un rocher qui est là, je ne sais pas quelle grandeur avait le rocher, mais bon, c'était peut-être suffisamment grand. Mais oui, certainement, suffisamment grand. Mais Dieu lui dit, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau pour 2 millions de personnes. Et le bétail, Moïse ne pose pas de questions. Mais quoique, lorsqu'il s'est agi de viande, Dieu dit, ils vont manger de la viande pendant un mois. Moïse dit, mais Seigneur, il y a 2 millions, il y a 700 000 hommes de pied, 600 000 hommes de pied, plus les femmes, les enfants et tout. Et tu dis que tu leur donneras de la viande pendant un mois. Dieu lui dit, est-ce que mon bras est-il devenu trop court? Le bras de Dieu n'est jamais trop court pour vous secourir. Ce qui fait, nous ne sommes jamais découragés devant les problèmes qui se posent. Et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse s'exécute, il frappe le rocher, mais avant d'y aller, il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Parce que ce n'est pas normal que Dieu nous fasse passer par le désert et que nous nous retrouvions sans eau. Ce n'est pas normal que telle chose arrive alors que Dieu est avec nous. Qui vous dit que Dieu agit dans votre normalité? Ce qui est normal pour moi n'est pas nécessairement normal pour Dieu. Ce qui est normal pour Dieu, c'est que Dieu a dit qu'il sortirait Israël de l'Égypte et le conduirait en Canaan, dans un pays où coule le lait et le miel. Comment est-ce que par le désert ou le long d'un fleuve ou le long d'un cours d'eau potable? Non, Dieu ne se pose pas cette question, il est Dieu. Là où il vous conduit aujourd'hui, Dieu ne se pose pas de question, est-ce que François y arrivera? Il sait très bien que je n'y arriverai pas. Il sait très bien que vous n'y arriverez pas. Mais s'il vous demande de passer par là, c'est parce qu'il est là. Il vous a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et le résultat, après qu'il ait frappé l'eau, le rocher, nous voyons cela dans Psaume 78, n'est-ce pas? Le résultat qui en ressort. Psaume Verset 15, on voit bien qu'il s'agit de leur passage au désert. Hein? Verset 12, devant leur père, il avait fait des prodiges au pays d'Égypte dans les campagnes de Tsoar. Fendit la mer et leur ouvrit un passage. Donc on voit bien qu'il s'agit de ça. Verset 15, il fendit des rochers dans le désert. Et il donna à boire comme des flots abondants. Ce n'est pas le petit filet d'eau qui coule dans les films, dans le film Les Dix Commandements. C'est des torrents d'eau, des flots abondants. Au verset 16, du rocher, il fit jaillir des sources. C'est de ça que Dieu a parlé. Des sources sont sorties de ce rocher. Le peuple pouvait boire tout entier. Il n'y avait pas à venir se bousculer hein, près d'un filet d'eau, chacun avec sa gourde. Hein. Si vous êtes le 800e, vous allez attendre toute la journée, vous avez tout le temps de mourir de soif. Et couler du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Ça a coulé comme des fleuves. Ce qui fait que le peuple a pu boire, n'est-ce pas, à satiété. Maintenant, au verset 18, d'abord au verset 17, ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Verset 18, ils tentèrent Dieu dans leur cœur. Une autre forme de tentation, la voici. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Okay. Ils ont faim, ils demandent à Dieu. Ils parlèrent contre Dieu et dirent, Dieu pourrait-il? Dites amen à ça. Mais bien sûr que Dieu peut. Le pourrait-il là, ça veut dire, Dieu est-il capable? Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Mais bien sûr. Pourquoi est-ce que le désert l'empêcherait de dresser une table? Amen. Quand l'on doute ainsi de ce que Dieu est capable de faire, vous le tentez. Vous le tentez, vous, en fait, quelque part, vous voulez que Dieu vous le prouve, n'est-ce pas? Non, Dieu n'a rien à vous prouver. Nous l'avons vu la semaine passée, il n'a absolument rien à vous prouver. La création elle-même prouve sa grandeur. La création elle-même prouve sa majesté, qu'il est tout-puissant. Dans Nombre, Dieu dit à Moïse, Nombre 13, Nombre 13. Verset 1er et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Dieu dit, je donne ce pays aux enfants d'Israël. Ça va? Il sait très bien qui est là-bas. Quand bien même c'est Poutine qui est là-bas, Dieu dit, je donne ce pays aux enfants d'Israël. Quand bien même il y a des missiles hypersoniques là-bas, Dieu dit, je donne ce pays aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Pour qu'ils aillent faire quoi? Pour qu'ils aillent explorer. Verset 17, Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici pour le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, vous verrez ce qu'il est et le peuple qui l'habite. Si ce peuple est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ainsi vous pouvez voir, n'est-ce pas, la valeur de ce que Dieu vous donne. Vous pouvez voir la puissance du Dieu, du Dieu que vous invoquez. Ce qu'est le pays, là. Donc, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Maintenant, allez voir ce pays. Alors, Dieu leur dit à l'avance, ayez bon courage. Pour pouvoir recevoir les dons de Dieu, il faut du courage. Il faut savoir, il faut pouvoir vaincre la soif, il faut pouvoir vaincre la faim, il faut pouvoir vaincre les difficultés, il faut pouvoir vaincre la fatigue, il faut pouvoir vaincre toutes ces choses et Dieu vous fera ces dons-là. Ne vous asseyez pas attendant que ces dons-là vont tomber comme cela, comme la pluie vous tombe dessus. Non. Il faut d'abord marcher parce que ces dons-là, ce sont des choses précieuses. Ce que Dieu vous donne, ce ne sont pas des petites choses. Jésus dit à la Syrophénicienne, à la Cananéenne, il lui dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de la donner aux chiens. Hein? Il ne faut pas non plus jeter les perles au pourceau. Un don de Dieu, c'est quelque chose de valeureux. Il faut prendre ça avec toute la crainte qu'il faut et l'appréciation qu'il faut. On ne dilapide pas les dons de Dieu. Ils montèrent, c'est ce que, ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. N'est-ce pas? Et ils vont le faire. Et voici le rapport, verset 26. Ils vont même revenir avec une grappe de raisins. N'est-ce pas qu'ils ont dû porter à deux? Verset 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël. À Kadesh, dans le désert de Paran, ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Héthiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer. Et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse, il dit, montons, apparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. On ne peut pas. Mais Dieu dit, montez. Il dit, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Dieu n'a jamais dit que vous étiez plus fort qu'eux. Dieu a dit, regardez si le peuple est fort ou pas. Ça, il a dit. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Mais vous, vous êtes de la race de Dieu. Eux, ils sont de la race des géants. Vous, vous êtes de la race de Dieu. Dieu est le Créateur. Toute l'assemblée leva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Ouais. Et ça va irriter Dieu. Et Dieu va aussi appeler ça une tentation. Ouais. Au verset 22. Savez, avant d'arriver au verset 22, vous savez que Dieu va dire à Moïse, j'en ai assez avec ce peuple. J'en ai assez avec ce peuple. Hein? L'Éternel, verset 11, l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Dieu appelle cela du mépris. Mépriser Dieu, c'est aussi le tenter. Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront. Tous les témoignages qu'on a donnés à Dieu, eh bien, l'Égyptien va apprendre, les Égyptiens vont dire, hein, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance, et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils diront, ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui. Ça, ils ont décrit, les Égyptiens, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais, maintenant, Seigneur, si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir. Le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Vous voyez? Dieu va dire, OK, je pardonne, comme tu l'as demandé. Mais tout cela ne verront point, verset 23, tout cela ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Ça va? Donc, le mépriser, c'est aussi le tenter. Deuxième façon. Cette attitude, en fait, de le mépriser, cette attitude de contester avec lui, c'est lui manifester de l'irrespect. C'est de l'irrespect envers Dieu. Et dans la Bible, nous voyons l'exemple de pas mal de gens qui se croyaient grands, qui ont méprisé le Dieu d'Israël, qui vous regardent, ils vous trouvent comme un peu Nebuchadnezzar, il était vainqueur des Juifs, et voyant les Juifs, il en est arrivé même à mépriser le Dieu des Juifs. Alors que déjà Dieu avait fait des choses qu'il avait étonné, et il avait même demandé aux gens, il avait lui-même donné ce témoignage. En vérité, le Dieu de Daniel, n'est-ce pas? Nous sommes ici dans Daniel chapitre 2. Verset 46, après que Daniel ait donné interprétation du songe. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ces secrets. Mais quand vous dites ça, agissez selon ce que vous, selon votre témoignage. Ça, c'est le témoignage de Nebuchadnezzar. Il va élever Daniel et ainsi de suite. En plus, il va faire une statue et il va demander à ce que tout le monde adore cette statue. Alors qu'il a reconnu que le Dieu des Juifs, c'est le Dieu, il est Dieu des dieux. Il est Seigneur des rois, c'est que vous et moi avons reconnu également. Et alors, lorsque un sorcier se présente, on dirait que le sorcier a plus de pouvoir que le Dieu auquel j'ai cru. Jetez toute votre superstition sur le côté dans la poubelle. Dieu est au-dessus de toutes ces choses-là. Lorsque vous recourez, ou bien lorsque vous avez peur de ces superstitions, c'est une manière de tenter Dieu. Est-ce que Dieu vous protège-t-il vraiment? Il vous a dit, je suis avec vous. Il vous a dit, oh, la Bible nous dit, c'est lui notre refuge. Que s'il nous tient dans sa main, personne ne peut venir nous y chercher. Nous le croyons. Nous ne le croyons pas seulement de la bouche, mais nous le croyons de tout notre cœur. Nous croyons que c'est lui qui nous conduit et que si nous sommes debout aujourd'hui, c'est par sa grâce. Nous croyons également que s'il ne nous est rien arrivé aujourd'hui, c'est toujours par sa grâce. Ce n'est pas aussi évident que ça. Sortir de chez soi le matin et rentrer le soir sans encombre. C'est une grâce. Il y a quelques jours, il y a un camionneur, n'est-ce pas, qui circulait tranquillement, il faisait son boulot, il faisait certainement attention à la circulation, à tout ce qui se passait, mais quelque part sur un pont, il y avait des jeunes gens qui s'amusaient à jeter des cailloux, des roches, des pavés. Il n'a pas fait d'accident de la route, mais le pavé l'a atteint à partir du pont. Et il en est mort. Donc, c'est une grâce. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je passe sous un pont, c'est une grâce. Parce que si un démon pousse quelqu'un, un délinquant, à venir jeter un pavé juste au moment où vous y passez, où vous passez en dessous de ce pont, ben, on va vous dire c'est la malchance, hein? Mais ce n'est pas la malchance. Dieu contrôle la chance. Il contrôle tout cela. Alors, Daniel, qui s'en est Nebuchadnezzar, il a reconnu que Dieu est le Dieu des dieux. Il a reconnu ça. Maintenant, au lieu d'ériger, s'il voulait absolument ériger une statue, au lieu d'ériger une statue à Dieu, c'est que Dieu n'aime pas. Bon, Dieu ne pouvait pas faire ça. Mais, disons ça, mais il a quand même gardé ses dieux à lui, sachant que le dieu des Juifs était plus grand que son dieu à lui. Et il oblige les gens à adorer ce dieu-là. Finalement, il va même leur dire, au verset 15, à la fin du verset, il va dire à Shadrach, Meshach et Abednego, qui n'avaient pas obéi à l'ordre du roi, il va leur dire, quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Savez, quand on prononce cette phrase, c'est là que Dieu agit. Lorsque votre ennemi prononce cette phrase-là, c'est là que Dieu agit. Hein, je vous ai déjà raconté cette histoire de ce jeune homme chrétien qui s'était fait prendre, qui s'était fait arrêter, n'est-ce pas, à Kinshasa. C'est Frère Souza qui m'avait raconté ça en son temps, n'est-ce pas? Et on l'a mis au cachot pour rien, je crois. On lui demandait de l'argent, mais il n'en avait pas là-dessus. Et ses frères ont appris qu'on l'a arrêté. Il était là, au cachot, devant le commissaire. Et ses frères, trois ou quatre de ses frères sont allés là, réclamer à ce qu'on le délivre. Je ne sais pas ce que les policiers voulaient exactement. Mais les policiers ne voulaient pas et ils se sont mis à prier. Là, dans la rue, ils se sont mis à prier. Ils priaient, les uns disaient Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Et le policier est venu dire, mais vous croyez que vos Amen et vos Alléluia vont sortir de là? Si vous perdez votre temps. Quand leur officier est arrivé, eux, ils continuaient à prier. Et l'officier les entendait. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. L'officier en a eu marre. Il a dit, écoutez, allez, faites-moi partir ces gens-là, délivrez leur ami. Et on a délivré l'ami, il est sorti. Et ils ont dit au policier, tu vois, ce sont les Alléluia qui l'ont délivré. Effectivement. Dieu est grand. Surtout, ne doutez pas de Dieu. Quand vous doutez de lui, Dieu dit que vous l'avez tenté. Vous l'avez mis à l'épreuve. Est-ce que Dieu est-il capable? Dans Daniel 3, il demande à Shadrach, Meshach et Abednego, à la fin du verset 15, quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Être certain de ce que Dieu est capable de faire. Il nous arrive beaucoup de choses ces temps-ci, mais ne soyez pas ébranlés de ça, par ça. Dieu dit, il ne nous abandonnera pas. Et nous le croyons de tout notre cœur. Nous avons besoin, comme tous les autres chrétiens dans le monde, nous avons besoin d'être éprouvés. Si Dieu nous envoie des épreuves, regardons, à moins que nous ayons fait quelque chose qui ne soit pas dans sa volonté. Si nous avons fait quelque chose qui n'est pas dans sa volonté, nous corrigeons cela. Nous regardons en arrière, qu'est-ce que nous avons fait qui cloche. Si nous ne voyons rien, on continue, nous allons de l'avant. Car nous sommes convaincus que cette parole que nous lisons, nous sommes convaincus que cette parole que nous écoutons, si elle est en accord avec la Bible, nous sommes convaincus que c'est la vérité. N'a pas besoin à ce qu'on vienne me convaincre, je suis déjà convaincu de ça. Convaincu que cette parole dans la Bible est la vérité. Ézéchias était sûr de son roi, de son Dieu, pardon. Rabshakeh avait méprisé le Dieu d'Israël. Ésaïe 36. Rabshakeh, c'était cet officier assyrien. Et il connaissait très bien, c'est comme ça que Satan fait les choses. Il connaissait très bien l'hébreu. Hein. Verset 13. Puis Rabshakeh s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque. Les démons, ils connaissent nos langues que nous parlons. Ils peuvent nous tenter en ce qui me concerne. Ils peuvent me tenter en swahili. Ils peuvent me tenter en français. Ils peuvent me tenter en lingala. Hein? Ils peuvent me tenter en anglais, n'est-ce pas? Et ils vont vous tenter dans toutes les langues que vous connaissez, même votre langue de tribu. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, verset 14, car il ne pourra vous délivrer. Ça, c'est vrai, Ézéchias ne pourra pas les délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel. Ah, en disant, l'Éternel nous délivrera. Cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez pas Ézéchias. Si, si, écoutez-le. Car ainsi parle le roi d'Assyrie, faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne. Jusqu'à ce que je vienne, que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. Qu'Ézéchias ne vous séduise point en disant l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? C'est normal parce que les dieux des nations ne sont pas des dieux. C'est tout à fait normal qu'il n'ait pas délivré. Alors, au chapitre 37, verset 10. D'abord, Rabshakeh, il les avait assiégés. Et puis, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il va faire de sorte que le Rabshakeh en question soit appelé. Verset 8. Rabshakeh, s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna. Car il avait appris son départ de Lachish. Son roi, Rabshakeh, n'est-ce pas, avait été attaqué quelque part. Parce que. Et Rabshakeh a dû abandonner le siège qu'il avait fait en Israël. Alors, il est parti trouver son patron, son roi, car il avait appris le départ du roi de Lachish qui allait combattre. Alors, le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. Voilà. On lui dit, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Écoute, il y a les Éthiopiens qui viennent te faire la guerre. Dès qu'il eut entendu cela, il envoya des messagers à Ézéchias en disant, Bon, Ézéchias, je te donne un sursis. Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda. Que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits, et toi, tu serais délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Gozan, Charan, Retsef et les fils d'Éden qui sont à Telassar. Où sont le roi de Hamath, le roi d'Arpad et le roi de la ville de Sepharvaïm, Déna et Diva? Il avait écrit tout ça. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur le chérubin, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Toi-même, lis. Entends toutes les paroles que Sanchérib a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leurs propres territoires et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Dieu va répondre à partir du verset 21. Alors Esaïe, fils d'Amoz, s'envoya dire à Ézéchias, Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge de Sion, la Vierge fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur et tu as dit avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban, et ainsi de suite. Nous connaissons la suite, hein. Nous connaissons l'histoire, lisez seulement. On ne méprise pas le Dieu vivant. Dieu, en donnant la loi à Moïse, le Seigneur l'a dit, je n'ai pas lu dans Matthieu 4, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne le tentes pas dans ses promesses qu'il a faites, tu ne le tentes pas en le méprisant. Maintenant, quelle que soit la difficulté dans laquelle tu te trouves, quelle que soit l'impossibilité de ton problème, Dieu veut que tu t'attendes à lui avec patience. Soyez patient. Tant que Dieu vous a appelé, tant que vous êtes fils ou fille de Dieu, soyez sûr d'une chose, il ne vous laissera jamais abandonner. Il ne vous laissera jamais tomber. Il agira quand, nous le chantons, en son temps. Au moment opportun, il agira comme il a agi au bon moment avec Shadrach, Meshach et Abednego. Ça va? Conformément à sa promesse. Dieu ne manque jamais à ses promesses. Vous savez, quand un homme comme Salomon peut se mettre à genoux et prier et dire de toutes les promesses que l'Éternel a faites à mon père David, aucune d'elles n'est restée sans effet. Si Salomon peut le dire, pourquoi pas moi? Pourquoi pas vous? Salomon est devenu idolâtre. Moi, je ne le suis pas. Mais Dieu, à cause d'une promesse qu'il avait faite à David, Dieu dit à Salomon, Je ne te ferai pas de mal à cause de la promesse que j'ai faite à David, mais c'est ta postérité qui va en pâtir. Je diviserai le royaume. Dieu est fidèle à ses promesses. Si Dieu vous a promis d'être avec vous, Il est avec vous. Dans le psaume 78, on revient. Verset 21. Ou verset 20. Voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel entendit et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël. Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours, il commanda aux nuages d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Ils mangèrent tous le pain des grands. Il leur envoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient et il amena par sa puissance le vent du Midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière. Et comme le sable des mers, les oiseaux ailés, il les fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure, ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Et quand vous lisez dans la prière de Néhémie, vous verrez qu'ils ont tenté l'Éternel. Dieu vous a donné tout ce dont vous aviez besoin. Dans le désert que vous traversiez, au travers des monts et des vallées que vous avez franchis, Dieu vous a donné toutes ces choses. Vous avez vu comment il vous a fait traverser ces montagnes, comment il vous avait fait traverser ces vallées, et vous continuez encore à douter de lui, à douter de ce qu'il prend soin de vous. C'est une tentation, c'est-à-dire vous mettez Dieu à l'épreuve, comme si vous vous disiez Dieu est incapable de faire cela. Oh non, Dieu est incapable de me sortir de là. Non, Dieu est capable de te sortir de toutes les situations. Et c'est une certitude, dit le psaume, de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. C'est le psaume 27, au verset 13. Pourquoi? Parce que ses bontés, elles se renouvellent chaque matin. Lamentation, chapitre 3. Vous voulez avoir des pensées positives? Voici ce qu'il faut faire. Vous ne voulez pas douter de Dieu? Voici ce qu'il faut faire. D'abord, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ceci. Verset 19. Quand je pense à ma détresse, ne pensez pas à votre détresse. Votre détresse ne mérite pas que vous pensiez à elle. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, n'y pensez pas. Quand je pense à l'absinthe et au poison, n'y pensez pas. Job dit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Voici, ça c'est un conseil que Jérémie, en pleine lamentation, nous donne, poussé par l'esprit. Je veux repasser en mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il était bon hier, il est toujours bon aujourd'hui. Il était bon quand j'avais le zèle du début, il est toujours bon aujourd'hui, plusieurs années plus tard. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Aussi, ce conseil, ce rappel que Jésus donne au diable, il lui dit ceci, il est écrit, n'est-ce pas ? Dans Matthieu 4, hein, Puisque le diable dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains. Alors maintenant, vous voulez vérifier cela. Mais non. Jésus ne veut pas venir sur la terre et puis aller commencer à démontrer aux gens, voilà, je suis fils de Dieu, et il se jette dans le vide, et puis les anges viennent le chercher. Hein? Lui, il vient, il va sortir les choses. Le diable va venir sortir les choses de leur contexte, et Jésus va, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Oui, mais lisez tout le psaume qui dit ça. Vous allez voir qu'il a supprimé des choses, n'est-ce pas, que Satan a supprimé des choses. Psaume 91. Regardez encore ça. Allez, verset premier. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon âme est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1 000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tout ça, il ne le dit pas, le diable. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Alors c'est là qu'il commence son psaume, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et puis après, il se tait. Or, le psaume continue. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. L'aspic est un serpent. Et le serpent, nous savons qui c'est. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Et le dragon ancien, nous savons qui c'est. Et ça, le diable ne l'a pas dit. Mais pour en ce qui nous concerne, maintenant, verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit, cela nous concerne. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Non, faire quelque chose, donc prendre un breuvage mortel, par exemple, et vous dire que il est écrit qu'il ne me sera fait aucun mal, mais il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ne le tentons pas, nous lui obéissons tout simplement, nous continuons à marcher à ses pas. N'est-ce pas? Nous suivons ses pas et nous savons très bien que la destination, là où il nous conduit, c'est bien là que nous devons aller. C'est là que Dieu nous a réservé comme place. Ne le tentons pas, mais nous lui obéissons tout simplement. Ça va? Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Ses bontés, n'est-ce pas? C'est une certitude. Vous pouvez voir sa bonté. Sa bonté, elle est visible sur la terre des vivants. Elle est visible. Dieu est bon. Dieu est bon pour Israël, comme dit le psalmiste. Mais que votre pied ne glisse pas. Ne regardez pas aux méchants, regardez à la parole. Prions le Seigneur. Dieu est capable de sortir l'eau du rocher. Dieu est capable de vous donner à manger en plein désert. Dieu est capable d'ouvrir la mer rouge, de vous frayer un passage. Il en est capable. Dieu est capable de vous faire passer au travers du mur. Mais ne le tentez pas en disant, je suis un fils de Dieu, regardez, je vais passer au travers du mur. Si vous en avez besoin, Dieu vous fera passer au travers du mur. Prions le Seigneur. Quel que soit votre besoin, Dieu est capable de satisfaire ce besoin, de combler ce besoin. Prions le Seigneur. Et ne le tentons pas en doutant, soyons certains qu'il est plus que capable. Mon corps peut être usé, oh, complètement usé, que je ne sois plus en état de faire quoi que ce soit, mais je sais une chose, s'il m'a fait de promesses, il est plus que capable d'accomplir. Oh Dieu, que je ne doute point par incrédulité, que mon frère ne doute point par incrédulité. Ce que tu as promis, tu es plus que capable de l'accomplir et nous le croyons de tout notre cœur. Avance avec chacun d'entre nous. Oh Dieu, tu connais les prières de chacun, tu connais les demandes de chacun. Oh, tout ce qui peut contribuer à ta gloire, puisses-tu vraiment accomplir cela chez mon frère qui t'a demandé, puisses-tu accomplir chez ma sœur. Et quand tu le fais chez eux, ne m'oublie pas, accomplis-le chez moi également, et que ta gloire soit manifeste dans notre vie, oh Dieu, au travers de toutes choses, au travers de tous nos besoins, partout où nous passons, que vraiment que tu manifestes cela, et la louange, l'honneur, l'adoration n'iront qu'à toi seul. C'est toi que nous honorerons, c'est toi que nous adorerons, c'est toi que nous louerons, c'est toi que nous élèverons. Oh, et nous, c'est le témoignage de ta grandeur, de ta bonté, oh Dieu, que nous apporterons. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te demandons toutes ces choses, te demandant de nous raccompagner chacun, accompagne chacun d'entre nous, sois avec nous, oh Dieu. Et si tu tardes à venir, nous te remettons la journée, la soirée de vendredi, que tu sois également avec nous, que tu inspires ta parole, Père, quelque chose qui nous encourage, que vraiment, dans ce tumulte, que les bras ne soient pas défaillants, que les genoux ne soient pas chancelants, mais que nous puissions marcher d'un pas ferme jusqu'au terme, comme dit le cantique, oh Dieu, en t'honorant, en chantant tes louanges, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.